En matinée, s'est dissipé dans le sillage du dollar qui est lui aussi revenu sur ses niveaux de la veille. Et en attendant quelques statistiques américaines, c'est le calme plat. Le CAC 40 abandonne 0,14% à 3320 points dans un volume d'affaires de 1,5 milliard d'euros négocié. Alors sur le marché des devises, l'euro est maintenant à 1,1797 plus 0,08% mais perd 0,52% à 127,94. Je vous rappelle que le CAC 40 lui recule modestement de 0,14% à 3320 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Il y a des courses cet après-midi à Saint-Cloud. Nous avons déjà l'arrivée de la première course. Premier le 11, deuxième le 6 et troisième le 7, 11, 6 et 7. Il est 14h04, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2 millions d'histoires avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui 11 octobre 1963, il y a 40 ans, la mort d'Édith Piaf.
Je suis très touchée de m'incliner devant Édith Piaf, ça me fait beaucoup de peine.
Elle était formidable.
Je peux rien vous dire, je vous en supplie, je l'aimais trop pour vous dire quelque chose, je trouve ça trop triste.
Elle était unique. Elle était unique. C'était la vie.
D'histoire. Il y a 40 ans, au cimetière du Père Lachaise, ils étaient 40 000 à être venus au dernier rendez-vous que leur avait donné Édith Piaf, morte à 47 ans le 11 octobre 1963. Perdue au milieu d'une foule énorme, on voyait à peine les amis de toujours, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Loulou Barrier, Bruno Cocatrix et Marlène Dietrich, qui avait dit un jour que s'il fallait débaptiser Paris, il faudrait l'appeler Piaf. Il ne manquait que Jean Cocteau, mort quelques heures à peine après celle dont il disait « Madame Piaf a du génie, elle est inimitable, il n'y en aura plus jamais ». 40 ans après sa mort, en effet, les pâles copies de Piaf sont déjà oubliées et on voit mal les stars aseptisées de la télé-réalité d'aujourd'hui mettre dans leurs chansons toute la passion que la plus grande chanteuse de son siècle avait su mettre dans des refrains qui ont fait le tour du monde.
Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux, un jour. Laissez-le-moi encore un peu à moi.
David Lollet, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était Mon Dieu, Édith Piaf en 1962, un an avant sa mort. Alors on aurait pu évidemment, pour commencer, choisir d'autres grands succès de Piaf. La vie en rose, l'hymne à l'amour, des chansons même moins connues ou même inédites, on en entendra d'ailleurs une dans cette émission. Et toutes ces chansons ont un point commun, vous le rappelez dans votre livre sur Piaf, c'est qu'elles parlent d'amour. Alors l'amour, c'est pas très original, les paroles que l'on entend en ce moment sont très simples. Comment se fait-il qu'avec des mots aussi simples, à moins d'être en béton, on est vraiment bouleversé, hein? Même vous, je crois, qui êtes né après la mort de Piaf.
Oui, tout à fait. Je pense qu'Édith Piaf sait manier l'intensité dramatique avec génie, exactement comme disait Cocteau. Je pense qu'il y a un vécu, il y a une souffrance intime et une conviction profonde qui fait que sa voix est profondément habitée. Je pense que c'est le secret inexplicable de Piaf.
Alors, vous parliez de souffrance, effectivement, elle apparaît, elle transparaît dans toutes ces chansons. Et quand on vous lit, on est vraiment frappé, on sait qu'elle a eu une vie tragique, mais pas à ce point. Moi, quand je vous ai lu, vraiment, j'étais étonné que dès l'enfance, elle vit véritablement dans la détresse morale, matérielle. C'est extraordinaire.
Tout à fait. Le roman de Piaf, c'est un roman de Zola. Elle est élevée par deux grands-mères, l'une alcoolique, l'autre tenancière d'un bordel. Bordel à Bernay en Normandie. Sa première robe de petite fille est confectionnée avec les sous-vêtements usagés des prostituées du bordel. Son biberon est empli de vin rouge. Enfin, c'est effectivement, on est dans le roman absolu.
Il y a déjà des amours de passage très tôt.
Très tôt.
Un enfant à 17 ans et un enfant qui meurt quand il a 2 ans.
Tout à fait. Le destin tragique comme ça se poursuit inéluctablement. Effectivement, ces amours sont des amours de légionnaires, de mauvais garçons, de marlous. Donc, et on rentre effectivement dans un Paris interlope, absolument mystérieux des années 20, 30, entre Pigalle, Ménilmuche. Et c'est vrai qu'elle mène une vie de patachon absolument terrifiante.
Et en même temps, ce sont des années d'apprentissage, David Delay. Vous vous rappelez qu'elle chante d'abord avec son père, qui est acrobate, elle chante dans les cirques, elle chante dans la rue aussi avec une amie qui va la poursuivre pendant des années, qui sera pas vraiment pour elle d'ailleurs une amie, Simone Berthaud, elle apprend au fond et dans les cabarets aussi.
Tout à fait, et d'ailleurs Edith, quand elle a commencé à chanter dans la rue, elle disait à Momone, allez viens Momone, on va se faire une rue. Mmh. Et même quand elle a commencé à chanter dans des cabarets, dans des petites salles de spectacle, elle disait on va se faire une rue. Pour elle, c'était le contact direct avec la réalité, avec le peuple, et son public était un public des instincts populaires, et c'est ça qui lui convenait. Et jusqu'au bout, même quand elle a fait le Carnegie Hall à New York, elle avait besoin de se confronter à la réalité. Et son métier, elle l'a appris sur le macadam. Et je pense que c'est ce qui fait qu'elle nous parle directement.
Alors, il n'y a pas que des souteneurs dans sa vie. Il y a aussi ses premiers protecteurs. Il y en a un qui a beaucoup compté, qui s'appelle Louis Leplay. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a trouvé le nom de Piaf. Elle s'appelait Edith Gassion.
Tout à fait. Il lui disait, tu chantes comme un moineau, mais la môme moineau existe déjà. On va t'appeler la môme Piaf. Elle trouvait ça un peu bizarre. Et puis, finalement, elle s'est laissée faire. Et ce nom a finalement laissé une grande trace. Mais Leplay a été un homme absolument merveilleux. Elle chantait dans la rue. Il l'a croisée rue Troyon, dans le 8e arrondissement. Et il s'est rendu compte de la vérité dramatique qui sortait de ce petit corps. Et il l'a invité à venir dans ce cabaret. Et tout a commencé.
Avec les premiers enregistrements en 1935. Et Leplay meurt assassiné. Vraiment,
c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le drame la poursuit constamment. Effectivement, il est assassiné. Et là, elle retombe dans la misère. Ce qu'elle avait cru gagner tombe en miettes. Et il faut à nouveau reconstruire et repartir de zéro. Comme toujours, elle le fera dans sa vie.
Et ce qu'elle va faire avec un autre protecteur, Raymond Asso, l'auteur d'un des tout premiers succès de Piaf, Mon Légionnaire.
C'est pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
C'était Mon Légionnaire, le premier grand succès d'Édith Piaf. Mon Légionnaire enregistré en 1937, à une époque où on commençait déjà à beaucoup parler de la môme Piaf. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Alors donc, un soir d'octobre 1935, Louis Leplay la présente pour la première fois au public dans son cabaret, le Gernise. Alors peut-être que ce n'est qu'un conte de fées inventé toute pièce, mais il fait partie du mythe. Il y a quelques jours, dit-il, je passais rue Troyon. Sur le trottoir, une petite fille chantait. Sa voix m'a pris aux entrailles, elle m'a émue, elle m'a bouleversée. Et cet enfant de Paris, j'ai voulu vous la faire connaître. Elle n'a pas de robe du soir, et si elle s'est saluée, c'est parce que je lui ai appris hier. Elle va se présenter à vous, telle qu'elle était quand je l'ai rencontrée dans la rue, sans maquillage, sans bas, avec une petite jupe de 4 sous. Voici la môme Piaf. Et c'est là aussi, au Gernise, que Jacques Canetti va la voir pour la première fois. Jacques Canetti, celui qui lancera plus tard Gréco, Vian, Gainsbourg et plein d'autres. Un effet extraordinaire, dit-il. Une fille pâle, mal foutue, hagarde. La voyant si chétive, de si mauvaise santé, on se disait qu'elle pouvait mourir. Or, elle chantait avec une telle force, une telle chaleur. Alors Jacques Canetti l'invite immédiatement à son émission sur Radio Cité, en direct. « Notre standard a été encombré pendant des heures, dit-il. Tout le monde voulait savoir qui était cette fille. »
Et dès novembre 35, la presse s'empare du phénomène. La môme Piaf, s'étonne le petit Parisien, on la sent mouillée, transie, glacée par la bruine qui trempe l'asphalte. Elle la chante aussi vrai qu'elle l'a sentie ruisseler sur ses épaules maigres. Puis en 1937, après son triomphe à l'ABC, la môme Piaf, c'est l'ange triste et fougueux du bal musette, écrit Maurice Verne dans l'Intransigeant. Et pour le célèbre journaliste et scénariste Henri Janson, c'est la voix même de la révolte, dit-il. Elle chantait l'autre jour une chanson sur la douane. On avait l'impression de passer la frontière à la barbe des douaniers. Épatant. Même l'écrivain Léon-Paul Fargue, dans la très intellectuelle NRF, hein, la Nouvelle Revue Française, est fasciné. Quand il s'agit, dit-il, d'évoquer le triomphe de l'amour, la dureté du destin ou l'angoisse haletante des trains, la môme Piaf se hausse jusqu'à des notes ultimes et vibrantes, comme dans les sombres histoire de Goya, de Delacroix ou de Forain. Et c'est aussi à la fin des années 30 que Jean Cocteau la découvre sur scène. Regardez cette étonnante petite personne, dit-il. Regardez son front de Bonaparte, ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue. Et voilà qu'une voix sort de ses entrailles. Une voix qui l'habite des pieds à la tête. Cette vague chaude nous submerge, nous traverse, pénètre en nous. Le tour est joué. Ce n'est plus Madame Piaf qui chante, c'est la pluie qui tombe, c'est le vent qui se plaint, c'est le clair de lune qui met sa nappe.
C'est beau cette formule de Cocteau. À la fin des années 30, il rencontre Piaf, Cocteau qui va mourir le même jour que Piaf, 30 ans plus tard. C'est magnifique, David Lelay. Et à cette époque, ce qui est frappant aussi quand on lit ces textes, c'est la rapidité mais foudroyante avec laquelle elle passe de l'anonymat de la rue à la scène.
Oui, effectivement, ça va aller très vite, mais grâce justement à l'émission de Jacques Canetti de Radio Cité, qui va être très importante. Et puis, Jacques Canetti se trouve aussi être un directeur artistique de la jeune maison de disques Polydor. Et donc, en décembre 35, Edith a 20 ans quand elle enregistre son premier disque avec les Mômes de la Cloche. Et effectivement, elle va bénéficier d'un bouche à oreille absolument fabuleux. À l'époque, évidemment, pas de télévision. Mais les gens vont se transmettre la bonne parole et on va aller la voir dans les cabarets de Pigalle, dans les cabarets de Ménilmontant.
Et tous ces succès, toutes ces chansons vont être des succès à partir de ce moment-là.
Ça va très vite, effectivement, et on les reprend. Ce sont des refrains tellement populaires que les gens n'ont pas peur de les entonner à leur tour.
L'accordéoniste en 40, par exemple, elle le chantera jusqu'au bout.
Tout à fait.
Alors, il y a des chansons quand même qu'on ignore, hein, qu'on n'a jamais entendues. Je vous propose d'écouter cette chanson inédite qui date de 1943, une des très rares chansons dans laquelle Édith Piaf fait plutôt rire que pleurer.
Je ne veux plus laver la vaisselle, je ne veux plus vider les poubelles, trier le linge bas de l'hôtel, brûler mes mains dans l'eau de javel, car j'ai un amoureux, amoureux, non.
C'était « Je ne veux plus laver la vaisselle », une chanson inédite de Piaf, jamais entendue hein, depuis qu'elle a été enregistrée en 43, il y a 60 ans. Alors des amoureux, à cette date, il y en avait déjà beaucoup. Et par exemple, il y en a d'étonnants, il y a Paul Meurice, par exemple, avec lequel elle ne lavait pas la vaisselle, elle la cassait plutôt.
Oui, c'était une très belle rencontre. Lui était d'un univers mondain, cultivé. La fille de la rue, effectivement, leur relation va être un peu plus houleuse. Ils vont se casser des assiettes à la figure, mais ils vont ensemble produire une magnifique pièce de théâtre qui sera le Bel Indifférent, écrit par Cocteau, puisque Edith racontait à Cocteau ses malheurs conjugaux, et Cocteau en a fait une pièce, et ce sera les débuts d'Edith Piaf au théâtre avec Paul Meurice.
Alors, des amours, il y en a énormément. Il y en a pratiquement, un amoureux par page de votre livre, hein, David Lelay. C'est assez extraordinaire. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que, véritablement, les amours de Piaf sont aussi brefs qu'elles sont sincères.
Ah oui, tout à fait. Et elles sont sincères
elle
aussi
y croit à
bien,
chaque fois.
Tout à fait. Elles sont sincères aussi bien pour les hommes qui la rencontrent que pour elle. Je pense que c'est une amoureuse. On l'a souvent décrit comme une nymphomane, c'était pas du tout une fille portée sur les choses du sexe, c'était une véritable amoureuse et qui était surtout omnubilée par la transmission. C'est quelqu'un qui n'avait pas reçu de ses parents et elle avait besoin de transmettre. Et qu'est-ce qu'elle avait à transmettre si ce n'est son talent, si ce n'est la chanson? Donc tout s'articulait autour de la chanson et une fois qu'elle avait donné, eh bien elle partait vers un nouvel amour.
Donner aussi, il y a un rituel extraordinaire que vous racontez dans votre livre, à chaque fois qu'il y a un amoureux, il a droit à une gourmette, un briquet, une montre en or.
Et pour elle, c'était la panoplie du patron.
Ouais.
Et oui, parce qu'elle était pauvre, donc pour elle, le briquet en or, la montre, etc., c'est des signes de richesse et donc de domination. Elle aimait finalement être dominée, même si elle était très tyrannique.
Oui, et puis même Pygmalion, parce que des amoureux, il y en a beaucoup qu'on a totalement oublié. Il y en a quelques-uns qui étaient totalement inconnus à l'époque. Il y a Yves Montand, à la fin de la guerre, hein, qui dira plus tard à Piaf, je te dois tout. Il y a eu aussi le premier des compagnons de la chanson, Jean-Louis Jobert, avec lequel elle est partie à New York pour sa première tournée aux États-Unis en 1947.
Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. This is a red letter night in Paris. For this evening, Edith Piaf sings for her last Parisian, her last European audience, before embarking on the great adventure of her career to sing in America. They call her the Môme Piaf, La Vie en Rose, the Rosy Life, which Edith Piaf sings as her first number.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la nuit en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots
C'était évidemment La Vie en Rose, un des plus grands succès de Piaf, enregistré aux États-Unis dans cette version en 1947. Alors c'était le premier grand voyage de Piaf, la première grande tournée de Piaf aux États-Unis, où elle est devenue très vite presque plus célèbre qu'en France, David Lelay.
Oui, ça a été effectivement énorme. Au départ, quand elle est partie, quand elle est arrivée à New York, les Américains ont été très déçus parce qu'ils attendaient une pin-up parisienne avec des strass et des plumes dans le derrière. Et finalement, ils ont trouvé une petite gosse misérable. Donc au départ, ça a été le bide et les compagnons de la chanson, par contre, ont eu un grand succès. Et puis la situation s'est renversée. Une bonne critique a suffi à ce que Edith Piaf connaisse un succès fulgurant au Versailles, un cabaret chic de New York. Et c'est une histoire d'amour fantastique qui s'est tissée avec l'Amérique, puisqu'elle va faire une dizaine de tournées aux États-Unis et même en Argentine, au Brésil, jusqu'en Amérique du Sud, au Mexique. Et elle va chanter en anglais, on ne sait pas, mais il y a des albums entiers d'Edith Piaf en anglais. Et elle va être la française la plus connue en Amérique.
Et puis c'est aussi l'Amérique des rencontres. Des rencontres, par exemple, Marianne Dietrich, une amie de... Oui. Des fin des années 40, elle qui n'aimait pas les femmes, Piaf n'aimait pas les femmes, Marianne Dietrich était vraiment, elle est restée fidèle jusqu'au bout.
Tout à fait, avec Dietrich, il y a une complicité de filles. D'ailleurs, Piaf disait, on se raconte nos secrets de filles, elle parlait de leurs amants, de leurs amours, et il y avait une complicité très très forte, ce qui est assez exceptionnel effectivement dans la vie de Piaf.
Puis surtout, autre immense rencontre, aux États-Unis, c'est un Français, c'est Marcel Cerdan, bien
tout
entendu, qu'elle découvre aux États-Unis.
Ils seront les deux Français les plus célèbres d'Amérique, et ce qui va être formidable dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas besoin d'elle, elle n'a pas besoin de lui. C'est pas un jeune chanteur qui veut faire carrière, il est déjà le plus grand héros du monde. Il faut imaginer ce gladiateur qu'il était quand il triomphe contre Tony Zell aux États-Unis. Donc cette rencontre va être fabuleuse parce que c'est deux jeunes gens qui viennent de la rue, qui sont les plus puissants et forcément on va suivre leurs faits et gestes avec passion.
Puis elle le materne, enfin c'est assez extraordinaire. Il y a une scène dans votre livre, il est dans son bain, elle lui offre même, je crois, des jouets pour le bain. Enfin, elle est là tout le temps.
Oui, tout à fait. Elle s'occupe de lui, elle lui lit des histoires le soir pour s'endormir, elle lui offre un petit canard en plastique, elle met dans sa baignoire quand il prend son bain. Il y a une relation d'une tendresse infinie et qui est sans doute la plus belle histoire d'amour effectivement d'Edith Piaf.
D'ailleurs c'est pour lui qu'elle composera, avant la mort de Cerdan, qu'elle composera cette chanson, l'hymne à l'amour.
Tout à fait, et ce qui est étonnant c'est qu'elle parle de la mort de Cerdan finalement dans cette chanson alors qu'elle l'a écrite bien avant, comme si elle avait anticipé le drame.
Le drame entre un homme et une femme qui s'aiment, qui font semblant de le cacher alors que tout le monde est au courant. Je vous propose de les écouter à leur arrivée en France, à Orly, le 17 mars 1948.
Nous avons autour du micro Edith Piaf, qui est là, Lucien Aroupe et Marcel Cerdan, qui signent des autographes. Edith Piaf, je voudrais que vous me disiez comment s'est passé votre séjour là-bas aux États-Unis.
Bah écoutez, vraiment, ça a été merveilleux. Le public américain m'a fait un accueil vraiment très touchant que je n'oublierai jamais.
Je voudrais vous demander, poser une question. Oui. Vous avez assisté au combat de Cerdan là-bas.
Oui.
Que pensez-vous de ce combat?
Bah écoutez, c'était bouleversant et merveilleux. Seulement, c'est terrible quand on a un copain de voir se battre comme ça. C'est épouvantable.
Cerdan, s'il te plaît, est-ce que tu veux venir une fois au micro? Marcel, je voudrais que tu me dises, avant de terminer, tu as vu Edith Piaf. Edith Piaf, tu nous as parlé tout à l'heure de son combat. Alors, je voudrais bien que tu nous parles un petit peu d'elle.
Oh, elle est formidable, cette femme.
Elle est formidable.
Surtout à l'étranger, c'était une grande chanteuse. Edith Piaf, lever une salle américaine, c'est formidable.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour...
t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Édith Piaf.
Et c'était l'hymne à l'amour, écrit donc avant la mort de Cerdan dans un accident d'avion le 27 octobre 1949. Et une chanson qu'elle chante, David Lelay, le soir même où elle apprend sa mort alors qu'elle est aux États-Unis.
Oui, tout à fait, l'hymne à l'amour, elle va la chanter le soir même de la mort.
Elle chante pour Marcel Cerdan.
Et elle prévient le public, et effectivement tout le monde, tout son entourage lui dit « tu vas pas chanter ce soir, c'est pas possible ». Et finalement elle va monter sur scène. Et elle va s'effondrer à la sixième chanson, mais non sans avoir chanté l'hymne à l'amour.
Et c'était en 49, et à partir de ce moment-là, on le sent bien dans votre livre, vraiment la vie de Piaf bascule. C'est une véritable descente aux enfers pendant les 14 ans qui lui restent à vivre.
Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement beaucoup de nuits blanches, il va y avoir aussi des accidents de voiture, et donc besoin de prendre de la morphine, il va y avoir une accoutumance à ces drogues, beaucoup d'alcool, et effectivement il va y avoir une longue descente, mais avec des sursauts. Et il y aura entre autres un sursaut magnifique en 1960 lorsqu'elle rencontre Charles Dumont au moment où elle est exsangue. On imagine que Piaf ne chantera plus jamais et il lui écrit « Mon Dieu », il lui écrit « Non, je ne regrette rien ». Et elle revient à Bobino, elle revient à l'Olympia et Piaf, tel le phénix, semble renaître de ses cendres.
Mais dans un état, il y a dans votre livre une photo qui est absolument pathétique. Elle est peu de temps avant sa mort. On la voit, elle a 47 ans et elle en fait 30 de plus.
On sent
vraiment une déchéance physique terrible.
Mais il faut imaginer tous les malaises qu'il y a derrière, les comas hépatiques. Elle a eu plusieurs comas hépatiques. Enfin, c'est une rescapée de la vie à un point absolument incroyable. Mmh. Et elle va s'accrocher jusqu'au bout, jusqu'à donner ce dernier spectacle, ce dernier Olympia. Avec Non, je ne regrette rien, qui finalement clôture une vie avec brio.
Et puis, donc, c'est des tournées suicides, vous parlez de tournées suicides, parce que vraiment, elle se force. Il y a des gens qui essaient de la retenir, elle se force à faire des tournées en France, elle n'arrête pas de chanter jusqu'au dernier mois.
Mais une chose est très importante, c'est qu'elle a besoin d'argent, toujours. Parce qu'elle n'a pas un sou, et elle a besoin pour alimenter la cour qui vit chez elle.
Oui, il y a pas mal de parasites.
Chanter, beaucoup. Donc, elle va chanter jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas un sou, elle a besoin.
Ouais.
Et puis pour exister, elle a besoin de chanter.
Elle se marie, elle est amoureuse jusqu'au bout. Elle se marie avec Théo Sarapo, qui a 20 ans de moins qu'elle. Elle se marie peu de temps avant de mourir, d'ailleurs.
C'est une relation très, très mère-fille, une relation de protection, mais qui finalement va être très forte. Et Théo Sarapo va être là jusqu'au bout. Et lui va mourir aussi tragiquement une dizaine d'années après la mort d'Édith Piaf dans un accident de voiture. On est vraiment dans le drame intégral du début jusqu'à la fin.
Ouais, c'était vraiment épouvantable jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, bon, on dit souvent qu'elle est morte le 11 octobre 1960. Parce que c'est ce jour-là que le certificat de décès était signé. En réalité, elle est morte la veille, c'est-à-dire exactement il y a 40 ans, jour pour jour.
Tout à fait, elle est morte le 10 octobre dans le sud-est de la France, et on l'a ramenée dans la nuit à Paris parce qu'elle était gosse de Paris, elle voulait mourir à Paris, et donc on a annoncé officiellement sa mort quand elle boulevard Lannes à Paris.
C'était donc le lendemain, le 11 octobre 1963, que toutes les radios de France annonçaient la mort d'Édith Piaf, avec laquelle nous nous quittons. David Lelay, merci.
Merci.
Ce matin, brutalement, à 9h, nous avons appris la mort d'Édith Piaf. Ça a été, pour toute la radio, une immense émotion.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait.
rappelle que mon invité, David Lelay, est donc l'auteur d'un très beau livre, d'un livre vraiment formidable sur Piaf, sur un air de Piaf, une biographie publiée chez Payot. Vous avez également, vous êtes également l'auteur d'autres biographies, David Lelay, notamment d'une biographie de Romy Schneider qui vient d'être publiée en poche dans la petite bibliothèque Payot. Je rappelle aussi que la plupart des chansons de Piaf que vous avez entendues dans cette émission sont tirées d'un double CD édité par EMI et dont France Inter est partenaire et qui sort à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Piaf avec 40 chansons, dont 4 inédites. Je vous signale aussi qu'une exposition consacrée à Edith Piaf se tient à la mairie de Paris jusqu'au 30 janvier 2004. Enfin, demain, samedi, à partir de 16h, la Bibliothèque de France présente aussi la réédition intégrale des enregistrements de Piaf. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gaspard Benoît, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Émilie Trassante et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Le programme de la semaine prochaine, lundi Talleyrand, mardi un tournant dans l'histoire des Juifs, le siège et la chute de la forteresse de Masada, prise par les Romains en 73 après Jésus-Christ, mercredi un grand nom de la gastronomie, Vatel, jeudi Jean-Paul II qui a été élu pape il y aura 25 ans jour pour jour, enfin vendredi un grand témoin, la seule femme qui a assisté à la bataille de Dien Bien Phu, Geneviève de Galard. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de votre rendez-vous avec Chris.
Bah alors, Patrice est en avance pour une fois, c'est incroyable, ça j'en reviens pas. Merci Patrice, à lundi.